ça va, mais qu'est-ce que vous faites? Vous achetez?
Ben, petit marché, hein.
Ben, oui.
Tous les vendredis, quoi.
Oui.
Eh, hey, c'est quoi cette caravane?
Mais vous n'êtes pas au courant. Radio Larzac fait son marché.
Chaque dernier vendredi du mois, Radio Larzac pose sa caravane au studio devant le musée de Millau pour 2 à 3 heures de direct.
De 10h à 11h, Conflit de canards, une revue de presse décapante décalée qui éclabousse l'actualité locale, nationale et internationale.
Wow!
Et à partir de 11h et jusqu'à 13h, antenne libre. Ils ouvrent la caravane à leurs invités pour une série d'interviews au gré de l'actualité.
Avez-vous bien noté? Radio Larzac fait son marché chaque dernier vendredi du mois de 10h à 13h en direct de la place Foch de Millau.
Tout de suite, place au direct avec Conflit de canards.
Conflit de canards, l'émission qui éclabousse l'actualité. Ah, c'est moi qui parle ? Ah mince, c'est vrai, le chef n'est pas là, donc on va en profiter pour se lâcher grave. Et en plus, j'ai récupéré 4 canetons qui sont venus se faire le bec ou les dents, je ne sais pas. Enfin, vous en saurez un petit peu plus à 11h, puisqu'ils auront la parole pour expliquer d'où ils viennent et qui ils sont. Donc, puisque j'ai la parole, je la garde. Et je voulais commencer l'émission par un petit retour sur l'actualité. J'ai peut-être une explication qui pourrait donner quelques éléments sur le vote du premier tour. De quoi?
Parce qu'on a voté là.
Ah oui, c'est vrai, toi t'es un abstentionniste convaincu.
Oui.
Bon, tu nous expliques. Bon, je commence ma petite, c'est pas une chronique, ça n'est pas une chronique, mais est-ce qu'on a la boîte à main? Non, même pas. C'est une découverte qui émane de chercheurs de l'université du Sussex et qui laisserait supposer des choses assez intéressantes. Alors, il s'agissait de mener une étude sur le fonctionnement cérébral des escargots face à la nourriture. La nourriture, ça n'est pas rien dans la vie d'un gastéropode. Eh bien, les chercheurs ont découvert que sur les 90 000 neurones que compte le cerveau d'un escargot, ne me demandez pas comment ils ont fait pour les compter, je n'en sais absolument rien, eh bien, 2 suffisaient à créer un petit circuit décisionnel. L'un dit qu'il y a de la nourriture, l'autre transmet l'état de l'escargot, faim, pas faim, et pof, la décision est prise et les 89 998 autres neurones peuvent continuer à se la couler douce. Donc quand j'ai lu cet article, je me suis dit, peut-être que ça expliquerait le résultat des élections. Tu rentres dans l'urne, et là, on dit souvent qu'il y a des gens qui ont 2 neurones. Bah finalement, 2 neurones, ça suffit pour voter.
Ouais. Intéressant, affaire à suivre. Mais là, tu disais tout à l'heure, en introduction, que j'étais abstentionniste convaincu. Bah ouais, je le rebondis totalement. Donc voilà, moi, en ce qui concerne la présidentielle, j'ai... par définition, pas beaucoup de commentaires à faire sur les candidats qui étaient au premier tour, qui seront au second tour, parce que voilà, c'est pas le genre de choses qui m'intéressent. Mais je suis quand même allé voir les résultats officiels, donc sur le site du ministère de l'Intérieur. J'ai lu une estimation que je n'ai pas entendue vraiment reprise dans tous les commentaires qu'il y a pu y avoir, des éditocrates, journalistes, etc., etc., à savoir que le premier parti de France, d'après les résultats de cette présidentielle, c'est le parti des abstentionnistes, puisque le résultat officiel est une abstention de 21%. Alors, on pourrait me dire que quand on lit les résultats officiels, non, puisque Macron a fait 23%, et Le Pen en a fait 21 aussi. Donc on pourrait dire que les abstentionnistes n'arrivent que derrière. Mais, par définition, l'abstention est définie en fonction du nombre d'inscrits. Et quand on donne les résultats de la qualification de Macron et de Le Pen au deuxième tour, on s'exprime en pourcentage d'exprimés. Donc on compare des choses qui ne sont pas comparables. Alors si on rapporte les résultats de Macron et Le Pen par rapport au nombre d'inscrits, on arrive à un total de 18% pour Macron et de 16% pour Le Pen. Donc les abstentionnistes constituent le premier parti de France. Et ce qui veut surtout dire que pour le deuxième tour, 66% des inscrits ne seront pas représentés au second tour. Et on appelle ça la démocratie. Donc voilà, moi en tant qu'abstentionniste, ça me fait bien marrer. Cela étant, par curiosité, je suis tout de même allé voir les résultats locaux, donc concernant l'Aveyron. En Aveyron, en première position, c'est Macron. Deuxième position, Fillon. Troisième position, Mélenchon. Le Pen n'est pas là. Après, quand on se rapproche un petit peu plus localement, c'est-à-dire sur Millau, on arrive au classement suivant. Macron en premier, Mélenchon en deuxième, Le Pen en troisième. Le Pen arrive. Et puis en ce qui concerne le Larzac, alors bon, il y a différentes communes, hein, puisque le Larzac est divisé en 9 communes, je crois. Mais il y a tout de même des résultats qui sont assez surprenants, on va dire. Je pense notamment à la cavalerie, où Le Pen arrive en première position et en force. Alors là, je pense qu'on va encore nous resservir l'effet Légion. Ce qui, là aussi, serait une information fausse, puisque la cavalerie a toujours voté extrême droite. L'Hospitalet, c'est pareil.
Est-ce que les légionnaires votent à la cavalerie?
Quand on parle d'effet Légion, ça c'est encore un gros mensonge, puisque par définition, le légionnaire est étranger, donc il ne vote pas. Alors on va encore me servir les officiers d'accompagnement, mais avant que la Légion arrive, il y avait aussi des militaires qui étaient au camp de la cavalerie et qui votaient. Donc ça ne change absolument rien. Alors après, j'ai eu la curiosité d'aller voir sur Paris les résultats. Donc là, le classement sur Paris, c'est Macron, Fillon, Mélenchon, Hamon et Le Pen n'arrive même pas à 5%. Alors on pourrait se dire c'est rassurant. Mais quand on fait le compte global, il faut quand même noter que le Front National arrive en tête dans 47 départements sur 101 et dans 216 circonscriptions sur 566 pour les prochaines législatives. Voilà, moi c'est juste les seuls commentaires que j'ai à faire, mais j'ai pas envie d'en m'étendre plus que ça, puisque ça a été la soupe qu'on nous a servie et qu'on n'a pas fini de nous servir jusqu'aux élections. Parce que là, je parlais de l'après-élection aussi en ce qui concerne les législatives. Une petite info qui m'a fait un peu marrer concernant Europe Écologie Les Verts.
C'est quoi ça?
Europe Écologie Les Verts, donc c'est des... Je crois que c'est des écolos qui s'habillent en vert.
Il y a vert, oui, c'est sûr, c'est des écolos.
Et voilà. Donc vous savez que de la même façon qu'en 2012, Europe Écologie Les Verts a passé un accord avec le PS. Donc là, cette fois-ci, après s'être fait bananer en 2012, donc ils ont mis le couvert. Et donc là, ils pensaient avoir conclu un bon accord dans la perspective des législatives. Et le problème, c'est que quand on regarde un petit peu les tenants de cet accord, il est vrai que le Parti Socialiste a décidé de réserver 8 circonscriptions aux députés sortants d'Europe Écologie Les Verts, mais que sur les 41 autres promises aux écologistes, il y en a 21 qui pourront jamais avoir, puisqu'elles sont détenues par des députés bien inscrits. Et surtout, ce qui est intéressant en ce qui concerne la tactique du Parti Socialiste pour les législatives, c'est que dans 9 autres circonscriptions, les sortants sont des socialistes qui ont rejoint Macron. Donc socialiste ayant rejoint Macron égale traître, hein, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que le Parti Socialiste se dispense d'investir de futurs candidats face à ces traîtres, ce qui peut donner une idée assez précise de la future tactique du Parti Socialiste qui est en train de faire les yeux doux au mouvement de Macron.
Tu ne dis plus socialiste maintenant ?
Non, parce que il représente plus rien, quoi, un peu, voilà. Mais bon, je pense que le Parti Socialiste va bientôt changer de nom, on en a déjà parlé. On a bien les Républicains, bientôt on va avoir les Démocrates, entre Parti Socialiste
et Démocrates,
voilà, les Républicains, etc. Voilà.
Et pour finir, peut-être les cantons, hein, n'hésitez pas, hein, quand vous voulez en placer. Ah, oui, parce oui, que oui. Sinon, nous, on ne va pas vous laisser parler. Hein. Donc, pour terminer avec les élections, moi, je voulais peut-être. Il y a quand même une grosse verrue qui est présente au deuxième tour. Donc, je voulais peut-être souligner à quoi reconnaît-on les prémices d'un régime fasciste. Moi, le premier élément, c'est au traitement qu'il impose à l'information et aux médias. Alors, à l'heure où beaucoup de gens préfèrent croire que savoir, que la trumpisation des cerveaux révèle les bas-fonds et le côté obscur de certains esprits, le chancre de la haine et de l'intolérance qui aujourd'hui se conjugue au féminin vient donc d'adopter une décision qui consiste à, ouvrez les guillemets, choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen. Voilà. Donc, il y a les sociétés de journalistes de près d'une trentaine de médias qui ont signé une pétition pour dénoncer une entrave à la liberté d'informer. Donc, oui.
Non,
oui.
Mais vas-y.
Oui, non, bah, voilà, et j'avais le deuxième élément qui, moi, pour moi, est assez symbolique de l'arrivée d'une certaine forme de pensée. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez une époque où on était tous Charlie. Hein, oui. Ça vous rappelle sûrement quelque chose.
Oui.
Alors, ça aurait pu faire l'objet d'un qui a dit, mais je pense que vous ne l'auriez pas trouvé. Non, c'est très dur. Voilà, donc je vous lis la phrase. Bon, ça date un petit peu. Je n'avais pas eu le temps de la placer la dernière fois, donc j'en profite puisque ça colle à l'actualité. Alors, ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est d'ouvrir les portes. Mais j'ai craint les débordements, le climat et l'ambiance sont si lourds. Je sais qu'on est un peu complice en agissant de la sorte et ça m'emmerde. Mais j'ai préféré annuler ou plutôt reporter. Ce qui est une facilité de vocabulaire, même si qui peut dire quelle sera la situation en septembre ou en octobre. Alors ces propos, ce sont les propos de Xavier Vandendrich, qui est président de l'île 2. Et qui assume donc la responsabilité d'avoir déprogrammé la lecture du spectacle du livre posthume de Charb, Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Voilà. Donc moi, ce qui me fait peur aussi dans ce genre de société, c'est quand les lâches ont conscience d'être lâches. Voilà. Parce que je me dis que là, on est vraiment mal barré.
Ça me fait penser à moi, je vais, voilà, j'assume un petit qui a dit par rapport à ce que tu as dit sur les attaques contre la presse. Donc c'est une citation, et là je vais pas faire de faute de syntaxe, hein. Quelqu'un a dit: c'est pas les médias qui décident les questions. Qui a dit ça?
Sarko?
Monsieur Fillon.
Bravo. On le présente, il se présente.
Antoine
de l'IICP.
Exactement.
Donc voilà, Fillon, à propos de l'annulation de son interview par Le Monde. C'est-à-dire que Le Monde voulait l'interviewer avant le premier tour. Et Monsieur Fillon a donc répondu: c'est pas les médias qui décident des questions. Dans un autre ordre, dans le même ordre d'idée aussi, qui a dit: se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste.
Un homme... Olivier Gisberg.
Non, mais...
C'est pas loin.
Pas loin. L'homme à l'écharpe rouge.
Ah oui,
Christophe Barbier.
L'inénarrable Christophe Barbier, donc ex-directeur de la rédaction de l'Express, qui, il paraît qu'il s'est fait virer. Enfin, viré, il est toujours conseil. Donc vous savez, c'est ce petit marquis libéral, libertaire à l'écharpe rouge, là. Donc c'est une écharpe, alors c'est un scoop, hein. J'ai appris ça, moi j'étais scié. Je me suis demandé pourquoi il a toujours son écharpe. Moi, à chaque fois que je le vois, j'ai vraiment envie d'étrangler avec, quoi. Mais quand je sais que cette écharpe lui aurait été offerte par Carla Bruni...
Sans blague.
Ouais, alors je sais pas s'il l'utilise pour réfléchir. mais voilà. Alors quand même, la citation totale, hein, c'est donc, voilà, je répète, hein, se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. Et donc il a continué en disant: l'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple... comme le lierre rampant peut s'élever. Connard. Je passe le relais.
En parlant de médias et de presse, moi je voudrais rendre hommage à la liberté d'expression, tuée par France Inter mercredi de cette semaine.
Oui.
Puisque Pierre-Emmanuel Barré, le chroniqueur trublion de la radio publique, alors je pense qu'ici il est important de rappeler que France Inter est bel et bien une radio publique, donc Pierre-Emmanuel Barré n'a pas eu le droit de diffuser sa chronique habituelle qu'il déblatère pourtant tous les mercredis dans l'émission de Nagui, la bande originale. Alors forcément, Salcon, c'est son pseudo Twitter, hein, je ne me permettrai pas de l'insulter, l'a publié
ouais,
sur son
précise.
Facebook. Oui, il faut mieux.
Et donc, après, c'est nous qui assumons en vérité.
Tout à fait. Et donc il a publié sur son Facebook. Et le problème, selon Nagui, qui est donc le producteur et le présentateur de l'émission, qui a refusé la diffusion selon France Inter, c'est que cette chronique était en faveur de l'abstention, donc on revient sur l'abstentionnisme premier parti de France, et que cela faisait le jeu du Front National. Et Barré estime en effet que ni Macron ni Le Pen ne sont ses candidats pour le second tour. Bon, que cela fasse ou non le jeu du FN, là n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas diffuser une chronique à la radio, et même si Nagui et France Inter s'en défendent, on appelle ça de la censure. Mais cet entretour médiatique, je pense, de la présidentielle, et comme le reste de la campagne, c'est du grand n'importe quoi. On a vu aussi qu'Audrey Pulvar a été suspendue de CNews pour avoir signé une pétition anti-Le Pen avant de se faire piéger par le site parodique Nord-Presse, en prenant une information de Nord-Presse à son sujet qui était totalement fausse.
Bravo.
Bravo, bah, bonne intervention.
C'était Valentin.
Enchanté.
Puisqu'on est dans les qui a dit, moi j'en ai un petit... Pardon ?
Non, il me semblait que c'était le temps pour une pause musicale, mais...
Si tu veux. Alors, juste un qui a dit,
vas-y.
Très, très rapide. L'islam a défini une place pour les femmes dans la société. Deux points, la maternité.
J'hésite avec Erdogan.
Bravo, c'est Erdogan. L'homme à la petite moustache.
Ah, ils sont bien, hein, nos invités.
Là, ouais, ils sont forts. Non, mais attention, je les ai briefés. Ils vont me casser du sucre la prochaine heure, mais c'est pas grave. Alors, sur sa lancée, l'abruti a assuré que les deux sexes ne pouvaient pas être traités de la même façon parce que c'est contre la nature humaine. Voilà.
Okay.
Ça fait peur.
Bon, tu nous la mets, ta musique. Mais c'est quoi d'abord ?
Gentiment demandé, je veux bien la mettre. C'est Dizzy's la peste, c'est ça la France.
Ah, ça tombe bien.
Petit retour en arrière.
Ouais, excuse-moi Dédé, je t'avais pas reconnu, vas-y rentre, j'ai un bon petit coup de gnoule là, vas-y viens.
Ok, ça sera pas de refus. Oh là là, mais t'as l'air pas lourd là.
Et je te le fais pas dire, j'ai pas pu dormir de la nuit, et moi les arabes, c'est le bordel.
Ah ouais, les idées du Turin.
Oui, il y avait trop d'odeur en plus.
Quoi, du hashish?
Si, si, méchant, méchant.
Prends de belles mises.
Si, si, méchant, méchant.
Éloquence, vibe.
Si, si, méchant, méchant.
Check Didier.
Si, si, méchant, méchant.
Mais c'est pour toi la française.
Musée, bal, musée, via. Vie en rose, façon Dolce Vita. Pour moi, c'est plutôt via. Sans à l'heure comme à Daytona. Faut que je fasse le max pour amener les CFA. Tu me comprends? Tu vois, j'ai pas le temps de faire le tour des monuments de Paris.
Mon bâtiment me suffit.
Même si peu de touristes passent par ici. Ici, Elan représente loin des clichés, cartes postales, Champs-Élysées. Cette vie de bohème, donc peu de comédiens de l'art. Et je te donne les faits, rien que les faits, comme sur Arte.
Mais si, pour toi en France, y'a trop de rebeux et de renois. Et que ça pue trop le tchoraille près des Sonacotra. Moi, je me fous du monde et prépare ma libération. Je suis le nouvel observateur en pleine expansion.
Ça me fout la rage
de faire comme si c'était pas grave. Lorsque le FN pousse à la scène un arabe. Alors que quand les Didi Die, la Sachal chamée, l'opinion publique française soudain s'est alarmée.
Mais
éloquence pense que pour nous, y'a moins de chance. Je baisse pas les bras, mais c'est ça la France.
C'est ça la France.
C'est ça la France.
Autant de bourbes dans le bistrot que de mecs fumant le pédo.
C'est ça la France. Autant de refrains au stepo que de variettes chez Foucault.
C'est ça la France. Autant de bonnes golido que de Chasselot dans le métro.
C'est ça la France. Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Pardo.
C'est ça la France.
Je n'ai con, pire qu'un vaudou face au coq français. Faut qu'on plume le beau, c'est notre époque, on le sait. J'prends le pic et la feuille saigne. Digne dans ce monde obscène. C'est ring sing, this is la peste.
C'est son nom de scène.
Texte grandiloquent, éloquent, les fugitifs des délinquants. J'rappe pour les neugeux qui te font regretter l'époque du French cancan ou quand tu regardais Stéphane Collaro et son Cocorico Show, son émission de beauf pour les cochons, les gros.
Il est madoc, ouais.
J'crois que tu te gourres. J'ai pas de slogan, j'ai pas d'histoire. Au pied de ma tour, j'ai pas de discours. Mais on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même bédo. Même
ça fait E-L-O-Q-E-N-C-E. Plus la vibe, fuck le FN vu que la N-C-E. Qui la dit, qu'il se raffiche pour celles et ceux qui pensent que la France, on vient la
halle.
Chacun sa vision du monde oblique et la mienne. Quand je clique à l'amiable, pessimiste à souhait sur tes principes, je m'assois. Pur guerrier Maasai, mes frères savent comment réagir si les flics Maasai. Autant de pauvres dans le bistrot que de mecs fumant le pédo.
C'est ça la France. Autant de refrains au stepo que de variettes chez Foucault.
C'est ça la France. Autant de bonnes golido que de Chasselot dans le métro.
C'est ça la France. Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Bardo.
C'est ça la France. Rarement le béguin, stock de haine en masse, origine qu'un prix représente, jeune noir, sans espoir, vu que c'est intégration sinon rien, peu de place pour moi dans ce pays, paraît que j'ai un chourave le taf de certains,
idées préconçues, soif de reconnaissance, pour moi et mes frères qu'un vin, n'oublie pas d'où je vais, où je vais, n'oublie pas se tomber pour un rien, histoire de braquage, sans trucage, je sers la réalité telle qu'elle, donc t'es calme frère.
Éloquence, on dit quoi?
On dit que c'est bon, non?
Des vagues de ouf sur des beats de dingue, putain c'est pendant. Moi je suis un afro-beau qui donne des afro-beaux, parce que seul taf qu'on m'offre, c'est d'être blarf et beau. L'époque des yéyés c'est fini, maintenant si tu sais pas ce que c'est de la bête de bombe négro. Même si ça sonne pas français, c'est 22 béliers pour le beat.
Maintenant tu sauras ce que c'est. Autant de beaux dans le bistrot que de mecs fumant le pédo.
C'est ça la France. Autant de refrains au stepo que de variettes chez Foucault.
C'est ça la France. Autant de bongo lido que de charclos dans le métro.
C'est ça la France. Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Bardo.
C'est ça la France. C'est ça la France.
Tu dis quoi éloquence?
C'est ça la France.
C'est ça la France.
Ouais ouais. Donc fuck de l'eau là, de l'eau.
C'est ça. Et Bardo.
Eh bien, puisqu'on avait terminé sur un Kiadi, on va enchaîner sur des Kiadi, puisqu'il y a apparemment nos camarades cantons sont très très forts. Donc j'en ai un petit là que j'ai pioché hier dans la mare. Alors, concernant un éventuel poste de Premier ministre, si notre ami EM était élu. J'ai plusieurs fois, attention, je vais faire les accords, donc vous aurez un bout de réponse dans le qui a dit. J'ai plusieurs fois dit que j'étais disponible à faire des choses. J'ai une expérience, je suis crédible, donc je peux être prête.
Parizeau.
Bravo. On a les mêmes sources, ça n'est pas possible. Elle connaît bien le sujet, puisqu'apparemment en 2006, elle avait tenté de débaucher le sieur Macron pour le nommer directeur général du MEDEF. Alors, elle a été reprise au vol sur Twitter par un certain Richard Ferrand, que je ne connaissais pas, qui est député finistère, membre socialiste, et donc qui a mis sur Twitter un tweet sanglant. Nous menons une campagne pour rassembler et servir la France, prière de ne pas rigoler. D'autres rêvent à leur carrière, dérisoire, inconvenant et vaniteux.
Donc Parizeau.
Parizeau,
elle sort de son placard.
Elle sort de son placard, oh, un beau placard. Il y avait.
J'avais un Kikadi.
Allez, vas-y.
Qui a dit hier soir, un ancien ministre qui remplace son président, ce n'est jamais arrivé dans la 5ème République.
Fillon ?
Non, c'était pas un homme politique.
Du coup, on a le droit de donner la réponse quand on l'a entendu hier soir déjà ?
Bah, bien sûr.
Non, mais quand Antoine nous l'a donné.
Oh non. Allez. on a une déontologie quand même ici, hein.
Ouais, puis
bon allez, on donne notre langue au chat.
On a la déontologie, mais on n'a pas la réponse. Quoi.
Ouais. Et là, c'est Gilles Boulot qui l'a annoncé hier. Et pour preuve d'être journaliste de TF1 et quand même d'annoncer en direct sur TF1 qu'il n'y a eu aucun ancien ministre qui a remplacé son président, je trouvais ça assez énorme quand même quand on voit la carrière de Nicolas Sarkozy sous Jacques Chirac, qui a quand même plusieurs ministères. Ouais. Et c'était tout. C'était mon Kikadi.
Ah bah, pas mal, pas mal. Moi, j'en ai un à propos de Whirlpool. Ah, vous vous rappelez, il y avait un truc qui s'appelait Florange, il y a un moment, ils avaient tous fait leur petit truc. J'attends de voir la suite après Whirlpool.
Moi aussi j'attends de voir la suite. Vas-y, c'est un qui a dit ça.
C'est un qui a dit.
Vas-y, amène-le. Vas-y.
Je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes.
Attali,
bravo, Émilie.
Alors,
Attali, espèce de truc qui ressemble à une tortue, là.
Toujours concernant Whirlpool, qui a dit, en parlant de Macron. Quand il est face à des salariés, j'ai l'impression de voir un pingouin qui découvre le sable du désert.
C'est pas mal, remarque.
C'est pas mal.
Mélenchon ?
Non.
Ruffin.
Yes !
Bravo !
On a dit aujourd'hui, dont François Ruffin, fondateur de Fakir, réalisateur du film Merci Patron, donc sur l'avenue de Macron à l'usine Whirlpool. Alors moi, j'en ai plus de caddy parce que c'est plus marrant, il trouve tout.
Puis trampoliner sur Fakir, justement. Trampoline. Oui, oui. Un petit article qu'il avait fait paraître il y a une quinzaine de jours qui remet assez bien les choses en perspective. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, a vu sa fortune augmenter de 9,27 milliards d'euros en 2015. C'est comme s'il gagnait 10 000 euros par minute. Les ouvrières de Poix du Nord, dans 59, qui fabriquaient les costumes Kenzo, étaient payées au SMIC, soit environ 20 000 euros par an, avec cotisation, retraite, chômage, etc. En une année de travail, elles touchaient l'équivalent de 2 minutes de leur PDG. Et il aurait fallu qu'elles cousent 463 500 ans pour accumuler autant que Bernard Arnault en 12 mois, c'est-à-dire depuis l'âge de fer. depuis que Homo erectus a commencé à se redresser. Voilà. Je trouve que ce sont des chiffres qui remettent bien les choses en perspective.
Voilà. Et donc certains disent que ce sont les abstentionnistes qui font le lit du Front National dans les élections. Ok. Bon, je sais bien qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire, mais bon. Bref.
Et je trampoline tout de suite.
Trampoline.
Parce que j'ai eu l'explication, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant la campagne, enfin pendant la campagne, il y a Macron qui nous a fait une espèce de show à la Rockstar. Il a hurlé dans le micro. Précis, je vois que tu as bien vu ça.
T'es fan?
Allez, non, pas du tout. C'est ridicule en fait.
Et il a remis une couche justement il n'y a pas longtemps. Il disait pas ça. Enfin bref. Et bien moi j'ai l'explication.
C'est un scoop?
Pas vraiment non, puisque j'ai trouvé ça dans la presse. Eh bien, l'explication, c'est un mec qui s'appelle Borello. Alors, pas confondre avec Bolloré, ni avec Bolero de Ravel, hein, c'est pas la même chose. Et ce Borello, vous savez qui c'est? C'est le bras droit de EM. C'est le monsieur social du candidat qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, faut pas déconner, pour avoir facilité le trafic et l'usage de stupéfiants. Voilà. Parce que ce mec-là, il a été condamné en 99, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Et à l'époque, vous savez ce qu'il faisait, ce monsieur? Il était gérant du Palace, la célèbre de boîte de nuit parisienne, voilà. Et donc, apparemment, il facilitait certains trafics dans son établissement. Bon, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 900 000 francs d'amende, qui, à l'époque, ça fait à peu près 137 000 euros. Et il faut savoir que ce monsieur Borello, quand on sait qu'il est conseiller de Macron, à l'heure où Macron vient de dévoiler son plan de moralisation de la vie politique, ça fait un petit peu peur, sachant qu'en plus ce mec-là apparemment est ministrable.
Oui, mais tu sais, quand on voit que dans la nouvelle promotion de la Légion d'honneur, parce qu'il y a eu la promotion de la Légion d'honneur, donc il y a eu, je sais pas, 500, plus de 500 personnes qui ont été décorées. Alors c'est toujours une liste, presque une liste à la Prévert, hein, quand on voit la liste des promotionnés. Mais j'ai quand même noté la présence d'un certain Michel Roussin.
Et oui.
Ancien bras droit de Jacques Chirac, condamné dans l'affaire des marchés publics d'Île-de-France pour complicité et recel de corruption. Donc voilà, ce brave monsieur a été promu commandeur de la Légion d'honneur. Donc monsieur Bolloré, il a d'avenir ce petit gars-là.
Il avait pris 4 ans avec sursis, il ne faut pas déconner.
Ah pardon. Légion d'honneur.
Légion.
C'est marrant, Légion d'honneur.
Là, tout de suite, ça te.
Bah, moi, c'est voilà. C'est pas d'honneur, c'est. Bah voilà, la Légion étrangère, par exemple. Hein. Alors bon, non, je n'ai pas de fixation. Je parle d'actualité. Voilà, je parle d'actualité parce que nous sommes le 28 avril. Et donc, après-demain, nous serons le 30 avril. Et le 30 avril, c'est la date à laquelle la Légion fait la teuf. D'ailleurs, il paraît, j'ai pas vu encore. Hein,
mais non,
il paraît
mais je préfère pas que tu le vois parce que là, tu vas.
D'accord.
Tu
donc, il paraît qu'il y a de superbes banderoles dans Millau pour relayer l'invitation de la 13e DBLE, donc le régiment de la Légion étrangère qui est sur le Larzac. Donc, l'invitation qui est faite à la population locale pour venir participer aux réjouissances de la fête de la Légion étrangère qui est le 30 avril. Voilà. Donc, c'est pour commémorer la bataille de Cameron. Alors bon, la bataille de Cameron, peut-être qu'on a plus en mémoire le 1515 Marignan que le 1863 Cameron. Mais voilà, donc c'est une occasion de faire un peu d'information pour ceux qui ne le savaient pas, quoi. Donc c'est en effet le 30 avril 1863 qu'une compagnie du régiment étranger, parce qu'à l'époque la Légion étrangère ne comportait qu'un seul régiment, donc une compagnie se trouvait engagée face aux troupes mexicaines. 62 soldats de la future Légion étrangère, donc, assiégés dans un bâtiment d'une hacienda, ont résisté plus d'une journée à l'assaut de 2000 soldats mexicains. Voilà, ça, ce sont les faits. Alors moi, je m'interroge déjà, j'ai une première interrogation. Alors la première interrogation, c'est est-ce que la Légion n'a rien de mieux à commémorer? Parce que ça reste quand même une défaite.
Je veux dire une branlée, même.
C'est même une grosse branlée, quoi. Alors bon, c'est vrai que l'épisode de Cameron est présenté comme un acte de bravoure. Mais il n'empêche que ça a été une grosse défaite. Donc la question que je me pose... N'y a-t-il donc pas dans l'histoire de la Légion ne serait-ce qu'une petite victoire? Bon, alors après, il faut reconnaître que les victoires de l'armée française en général ne sont pas Légion. Jeu de mots. Alors, les victoires de l'armée française ne sont pas Légion, mais Bon, c'est vrai, sauf peut-être contre les populations civiles. C'est vrai que l'armée française a souvent été très forte face aux populations civiles. Et d'ailleurs, pour rester sur la Légion étrangère, on peut remarquer aussi, en termes historiques, que le même régiment étranger, quelques années plus tard, a par exemple participé à la répression sanglante de la Commune de Paris. Voilà. Alors la seconde interrogation que j'ai par rapport à cette commémoration, c'est que pouvait bien foutre la Légion au Mexique. Donc là, pareil, l'histoire officielle nous apprend qu'elle participait à l'intervention française qui avait été ordonnée par Napoléon III pour mettre au Mexique, pour mettre en place un régime favorable aux intérêts français. Alors, de quel intérêt on parle ? Les intérêts de qui ? Je ne pense pas...
Les Mexicains, je pense.
Ou plutôt, ouais, de Mexicains, ou plutôt d'une certaine caste française. Je ne pense pas que l'intervention militaire française au Mexique au 19e siècle était particulièrement favorable aux intérêts, par exemple, des paysans aveyronnais du 19e siècle, pas plus que les opérations militaires extérieures actuelles ne servent les intérêts des aveyronnais aujourd'hui et des Français en général, quoi. Alors, considérer, comme nous suggèrent nos élus locaux et la presse locale, que nous devrions nous sentir honorés par la première célébration de la bataille de Camonde sur nos terres, moi personnellement, ça me fait un petit peu marrer, quoi. Alors je terminerai juste par un message personnel concernant monsieur Fauconnier. Vous savez, monsieur Fauconnier, ce grand ami de la Légion étrangère, puisque il avait applaudi le discours du sinistre Le Drian qui était venu installer officiellement la Légion au camp de la cavalerie, quand il avait parlé des valeurs communes entre la Légion étrangère et les habitants du Larzac. Alors, il faudrait vite, il ne lui reste que deux jours, hein, il faudrait vite que monsieur Fauconnier contacte ses amis légionnaires pour leur expliquer que l'élection Miss Képi Blanc, qui est prévu dans le programme des réjouissances, là, c'est pas vraiment une tradition locale, quoi. Donc, si vraiment il veut faire passer son gros mensonge, il faudrait qu'il leur conseille de remplacer cette élection Miss Képi Blanc par un bon tripou, une partie de boule aveyronnaise ou quelque chose comme ça. Dernier détail. Là, j'ai l'air d'être un petit peu critique, mais je peux avoir l'air comme ça. Cela dit, c'est vrai que les légionnaires ont le droit de commémorer ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils le font chez eux, et c'est le cas. Donc là, c'est dans le camp, porte ouverte, qui veut, vient. Alors je pense que les 1000 voix qui étaient restées frustrées par l'annulation du défilé du 11 novembre vont certainement y aller. Mais il ne faut pas qu'ils ratent le défilé cette fois-ci. Ils ne pourront pas dire que le défilé a été annulé. Mais ce que je trouve intéressant tout de même, c'est que cette fois-ci, la Légion fait la fête chez elle. Et comme ça, cette fois, le quartier de la place Foch à Millau ne sera pas quadrillé par les forces de l'ordre, comme ça a été le cas le 1er avril à l'occasion du concert de la musique de la Légion étrangère à la Maison du Peuple, juste à côté d'ici. Et puisque la presse locale nous parle de grandes premières concernant la commémoration de la bataille de Cameroun en Aveyron, c'est dommage qu'elle n'ait pas relevé une autre première qui a été ce jour-là, donc le 1er avril. La première fois dans l'histoire de Millau que les rues étaient barrées par des patrouilles conjointes, policiers, légionnaires. Autrement dit, la première fois que l'armée procédait à une opération de police dans les rues de la cité, quoi. Voilà. Quand certains disent que le bruit de bolche se rapproche. Donc voilà, je faisais pas de la promo hein, pour la fête de la Légion, mais c'était juste un commentaire de l'actualité. Et je leur fais confiance pour, dans 15 jours, me livrer sur un plateau un nouvel épisode.
On a parlé du Mexique, je voulais rester au Mexique. Est-ce que vous connaissez Maria Félix ?
Absolument pas.
Personne. Alors Maria Félix, c'est une femme de 116 ans qui s'est vue refuser sa carte bancaire car son âge dépassait les limites au Mexique, donc elle avait plus de 110 ans, la limite. Et donc je me suis imaginé ce qu'on pourrait faire en France pour des personnes âgées qui pourraient avoir un âge susceptible pour leur retirer leur carte bancaire. Je pensais par exemple à Liliane Bettencourt, par exemple, mais je pense que ça ne pourrait pas se faire, puisque bon, même si elle n'a pas encore 110 ans, elle a 94.
Il a mauvais esprit, ce garçon. D'où il vient ?
Je pense qu'au vu de l'argent qu'elle a pu rapporter il y a quelques années, je pense qu'en France, on ne pourrait pas retirer une carte de crédit à certaines personnes. Même si, je le répète, Mme Bettencourt n'a que 94 ans, donc on peut encore attendre un petit peu, même si je pense que ça ne se fera pas. Et devant cette situation-là, je pense que Maria Félix a eu la meilleure des réponses. Avant, le gouvernement mexicain a annoncé qu'ils allaient réparer cette erreur. Elle a eu la plus belle des réponses, qui disent qu'ils m'aident ou non, je serai aussi heureuse que j'ai été toute ma modeste vie. Elle a prouvé que comme quoi l'argent ne fait pas toujours le bonheur.
Et vu qu'on parle du Mexique, je voudrais parler de Donald Trump, au passage.
Ah oui,
les deux sont indissociables. Mûres. Si je vous dis que notre cher président américain a failli déclencher une guerre nucléaire à cause d'un coca, vous me dites quoi?
Bon, c'est possible.
Tout est possible. Non, moi je ne croirais pas parce qu'il n'a pas une tronche à boire du coca.
Au contraire, il est totalement addict au coca.
C'est vrai.
C'est, oui.
Donc c'est vraiment, ça détruit vraiment le coca, c'est vrai.
Justement, alors c'est faux qu'il ait failli déclencher une guerre nucléaire à cause d'un coca, mais ça pourrait arriver, car le président américain a en effet un autre bouton rouge dans son bureau pour lui permettre de se faire apporter un coca sans avoir à se déplacer. Alors ce bouton, il a toujours existé.
On se marre, mais on ne voit pas. Hein.
Et ce bouton, il a toujours existé, mais il sert à prévenir les employés de la Maison Blanche quand le président a besoin de quelque chose. En fait, il est installé dans une boîte spéciale en bois, disposée sur le bureau, et il sert de signal quand Trump a besoin de sa dose de soda. En bon américain, le président est donc addict au coca, reste à savoir s'il en boit 7 par jour. N'est-ce pas, Thibaut?
C'est un jugement personnel que tu apportes, là?
Ah, tout à fait. Donc, on le sait, le coca, c'est nocif, et même le light... Car une étude de la Boston University School of Medicine, réalisée pendant 10 ans, a été effectuée sur 4400 personnes afin de déterminer leur prévalence à la démence. Alors l'animateur vedette américain David Pakman, animateur d'un talk show à son nom, s'est demandé dernièrement si son président ne souffrait pas de démence précoce, se demandant même s'il savait vraiment lire. Il justifiait cela par des brusques changements d'humeur, l'absence de gêne, ses réponses bizarres et inappropriées ou encore ses oublis récurrents. Et cela expliquerait peut-être pourquoi Trump a confondu la Syrie avec l'Irak dans une interview de la Fox dernièrement où il expliquait avoir envoyé les missiles sur le pays de Bachar el-Assad en mangeant la plus belle glace au chocolat du monde.
Je ne sais pas quoi... Ouais.
Je laisse sans voix.
Rire, pleurer, trembler,
À propos de rire, une brève avant la pause musicale. Vous allez rigoler là. La Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies, de son petit nom CSW, donc qui promet le droit des femmes partout dans le monde, compte un nouveau membre. Point de suspension, vous savez qui c'est ?
L'Arabie Saoudite.
Bravo, Émilie, mais tu as pompé mes notes, ça n'est pas possible.
Voilà, m'informe.
Ouais, tu t'informes. Peut-être que j'avais mis ça sur ma page Facebook, tu l'as peut-être lu.
Non, il n'y a pas que toi qui s'informe.
Donc rappelons que l'Arabie Saoudite est une jolie contrée qui applique la charia et où chaque Saoudienne dépend d'un tuteur masculin, père, frère, mari, pour vivre, travailler... Voyager, je n'en dirai pas plus.
Patrick, qui plaît beaucoup à François Hollande.
Pardon ?
Qui plaît beaucoup à François Hollande, comme ouais. Patrick.
C'est juste une réflexion, ça, c'était un peu comme si on nommait Dutroux à la Brigade des Mœurs, j'ai trouvé.
Par exemple.
Hein ? Pas mal. Ouais. Pause musicale ?
We'll be right back. Karine Barne.
Eh bien, donc c'était quoi le morceau, Émilie ?
C'était Météicho et la chanson c'était Xam Sabop.
Merci. Ça s'écoute très bien. Moi, je voulais rester un petit peu local là. Et j'ai lu un article très intéressant. Donc nous avons une locale, c'est aussi national puisque ça concerne les élections. Nous avons une nouvelle célébrité à Millau. Donc on va lui rendre hommage. Il s'appelle Ahmed Edaraz. Certains le connaissent très bien ici.
Oui.
Voilà, tu connais. Bon, je pense. Voilà. Donc, c'est un article que j'ai lu dans le Midi Libre, alors sur le web. Hein, donc, j'ai dû me taper une pub parce que tu as le choix entre t'abonner, donc payer l'article, ou alors tu cliques visionner une pub. Alors, tu te tapes. En l'occurrence, c'était une minute de merde sur Ibis. Et puis à la fin, tu peux lire l'article. Bon, c'est pas mal. C'est peut-être une nouvelle version. Les étudiants, là, peut-être un nouveau modèle de journal en ligne. Donc, le sieur Edaraz occuperait un poste. Je vous lis l'article du Midi Libre. Occuperait donc un poste clé dans l'organigramme Millavois, puisqu'il serait ni plus ni moins qu'en charge de la gestion des déplacements de Brigitte Trogneux. L'épouse du leader d'Emmanuel Macron et de sa famille. Alors on se demande ce que vient foutre, pourquoi il faut qu'elle gère ce déplacement. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce genre de détails. Avant que l'Amiénois, donc c'est l'habitant d'Amiens, il faut mettre un peu sa science, ne monte sur scène pour prononcer son discours, ouvrez les guillemets, nous nous sommes vus et embrassés. Je l'ai félicité et il a répondu « Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait ». Donc accolade brève et spontanée qui est l'aboutissement d'un long parcours d'après Le Quotidien, ou d'une surconsommation de vaseline de la part d'Ahmed Edaraz, mais ça c'est ma version à moi. La belle histoire avait débuté lorsque Jean-Marie Girier, directeur du groupe de campagne d'Emmanuel Macron, avait proposé aux Millavois, ouvrez les guillemets, de travailler aux côtés de Brigitte pendant la campagne, de l'accompagner dans ses déplacements. Alors je pense qu'il a ouvert l'agenda de la ville au hasard et qu'il a vu Ahmed Edaraz. Il a dit tiens, ça c'est génial, il l'a appelé. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Donc Ahmed, bien sûr, accepte de s'engager dans l'aventure qui lui apprend à mieux connaître Emmanuel Macron, ouvrez les guillemets, un homme brillant, mais d'une grande simplicité, mais surtout son épouse, une femme formidable, avec qui forcément Ahmed tisse des liens très forts. Ouvrez les guillemets, elle a su me donner le goût de la lecture. C'est bien à ton âge, Ahmed, hein, ça c'est moi qui l'ajoute. Elle lui a conseillé Pif Gadget, L'Étranger de Camus. Et ce dimanche 23 avril, jour d'élection, l'homme vit à ce moment au plus près du couple. D'abord en les accompagnant voter à la mairie du Touquet, puis à Paris au QG du mouvement. Macron est alors aux côtés des plus proches, mais Ahmed n'est pas là pour témoigner de sa foi au moment où les résultats sont dévoilés. Ouvrez les guillemets, à 19h50, j'ai dû partir récupérer des invités du couple. Bah, autrement dit, faire le chauffeur de taxi, hein, mais ça c'est mon interprétation encore à moi. Et je suis revenu au QG, admirez la précision du timing, hein, lorsqu'il était 19h58, 2 minutes d'attente encore, puis l'éjaculation, la délivrance. Tout ce beau monde se déplace ensuite vers la porte de Versailles, oui, où se tient le discours du candidat. Après ce discours, direction le restaurant de la Rotonde, là où les télés n'ont pas été conviées. Ahmed, lui, est présent. Un dîner et pas une fête, souligne-t-il, car 99% des gens étaient des membres de son équipe, des militants, des agents de sécurité, des femmes de ménage. Mais oui, c'est beau comme un roman d'Arlequin. Avec quelques personnalités présentes tout de même, hein, comme Pierre Arditi. Pierre, comment c'était la chanson de Dutronc déjà ? Oui. Et le Millavois se prend en photo avec Pierre Arditi, un selfie quoi. Bon bref. Et voilà, donc un comportement normal, car malgré ces quelques mois, l'homme n'est pas encore accoutumé à côtoyer des célébrités. J'ai dit merci à Emmanuel Macron, car pour quelqu'un de ce niveau, là, accepter d'être entouré par un petit mec comme moi, qui vient d'un quartier populaire, qui n'a pas fait d'études, il faut le vouloir. Donc à présent, Ahmed met le cap vers le deuxième tour, plus serein, car lorsqu'on a la confiance d'un potentiel futur président, il est plus facile de se mettre en marche. Voilà, donc pour les Millavois, je rappellerai donc Ahmed Edaraz. Je n'ai pas pu vraiment vérifier l'information, j'ai cherché mais j'ai pas eu accès aux sources. Il était passé par le PCF. Il a été donc conseiller municipal sur la mandature de Monsieur Durand. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, je ne l'ai croisé qu'une fois dans ma vie, je lui ai serré la main, je ne sais plus à quelle occasion.
Et quand je lis ça, je me dis que finalement, c'était La Rochefoucauld qui disait « Méfiez-vous de votre première impression, c'est toujours la bonne. Mmh. » Voilà. Donc je pense qu'on aura peut-être... si Marine, par le plus grand des malheurs, arrivait au pouvoir, peut-être que le grand écart pourrait encore se prolonger. Genre je dis « Ahmed, fais gaffe quand même à tes adducteurs. Hein. »
Voilà. Du coup, si je peux me permettre,
tu peux te permettre tout ce que tu veux.
Je voulais essayer.
Il faut s'imposer ici. Hein.
Je voulais essayer de rester un petit peu léger.
Pourquoi je suis lourd.
Et comme je suis toujours en retard, je vais faire un qui a dit après tout le monde. Alors, j'aurais une question. Qui a dit le pilote a décidé d'atterrir à Lares sur l'île de Terceira en raison d'un différend entre le personnel de bord et un couple anglais. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Tu peux nous préciser le contexte?
Et justement, je vais le préciser après.
Ouais, en plus, il est dur. Là, hein.
Peux-tu relire, s'il te plaît?
Le pilote a décidé d'atterrir à Lares sur l'île de Terceira en raison d'un différend entre le personnel de bord et un couple anglais.
C'est Fillon qui avait un problème avec son Falcon.
Exactement. Et c'est aussi le porte-parole de l'armée de l'air portugaise pour une histoire, somme toute, complètement idiote. Ça s'est passé mercredi soir sur la British Airways. Un couple d'anglais qui volait en direction de la Jamaïque a décidé de faire un raffut pas possible dans l'espoir, un peu à la mode américaine, de se faire passer sur la classe supérieure en avion. Ils y voyageaient en classe affaires, ils voulaient passer en classe économique. Et ont non seulement décidé de s'en prendre au personnel de bord de l'avion, mais ont carrément essayé de lever l'ensemble des passagers de l'avion dans l'espoir d'être autorisés à passer devant, parce que le personnel aurait voulu éviter des quelconques répercussions plus tard. Et au lieu de céder, comme ils le font souvent, encore une fois, aux États-Unis, le pilote a carrément décidé d'atterrir sur une île portugaise, donc l'île de... Là, c'est dans l'archipel portugais des Açores, c'est l'île de Terceira, pour déposer les deux, qui ont été remis à l'armée portugaise avant de redémarrer en direction de la Jamaïque, en laissant les deux tout seuls, qui ont passé au final 2 jours avec l'armée portugaise à se faire interroger. Ils étaient accusés du coup d'avoir mis en danger non seulement la sécurité des passagers, mais la sécurité du coup de l'appareil entier. Et voilà, et je voulais en parler parce que je suis content que pour une fois, on laisse pas simplement un couple de crétins réussir à contourner le système, à payer moins cher qu'il est... à payer moins cher pour avoir plus, on ne donne pas de privilèges à ceux qui gueulent les plus forts, au contraire on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire on les remet aux autorités qui s'occupent de leur cas, et enfin un peu de justice dans ce bas monde.
Voilà, c'était Thibaut.
Mais on les a pas traités, eux, de terroristes musulmans?
Non, ils n'étaient absolument pas musulmans.
Non, parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, c'est un terroriste musulman. Il y a Daesh qui revendique.
Juste après.
Moi, j'ai l'impression que quand je vais lâcher une caisse, bientôt, c'est Daesh qui va revendiquer 24 heures plus tard. Donc là, je ne sais pas, peut-être que Daesh va... Non, ils n'ont pas revendiqué.
Pas encore, mais ils ont une semaine pour le faire.
D'accord, c'est vrai. Précis, tu voulais nous dire quelque chose?
Oui. Moi, je vais vous chanter une chanson, en fait.
Ça, c'est une première, ça. Ouais, bravo.
Je voulais faire un direct. Non, je rigole. Non, peut-être après, je vous chanterai une chanson. Alors, les garçons, est-ce que vous connaissez le dicton « qui se ressemble, s'assemble »
Oui, tout le monde le connaît.
Tout le monde le connaît. Alors, vous pensez que je vais vous parler de quoi, quand je vous parle de ça? De ce dicton-là?
Politique.
Oh là là, mais vous êtes trop fort. Vous avez gâché mon début de chronique, là.
Il fallait se débrouiller pour...
Je voulais parler de strass et de paillettes au départ. Je me disais qu'est-ce que je vais parler? Je voulais parler de stars, de célébrités, quoique quand on parle politique, ça y ressemble là, maintenant, 2017.
Je te fais remarquer qu'on n'arrête pas de parler de stars depuis le début de l'émission.
Oui,
hein.
Oui.
Regarde Ahmed, machin.
La danseuse étoile.
Et donc, moi, je vais vous parler du couple Marine-Macron. Alors,
ils sont en couple?
Moi, je trouve qu'ils sont en couple. Ils devraient se mettre en couple, moi. Ouais. Ils sont...
Ah ouais, mais s'ils font des petits, qu'est-ce qu'on fait?
Mais trop mieux, elle va nous faire un truc à la... Comment elle s'appelait, la copine de Hollande, là, qui est partie avec le bouquin, là.
Terre-Valeur,
voilà, ouais.
C'est pas un kick à dit.
Non,
c'est pas un kick à dit. Mais
je pense qu'elle sera déjà morte, non? Le temps qu'ils se mettent ensemble, il va des enfants, non, parce qu'il lui reste un peu de temps de vie.
Tu sais, maintenant, avec l'insémination artificielle, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Elle peut congeler tout ce qu'elle veut.
Donc, alors, je continue. Allez, hop, tous les coups sont permis au poker. Vous jouez au poker, non?
Non.
Non. Tu m'étonnes.
D'accord. vous m'aidez beaucoup. Alors, c'est surtout leur présence à Amiens. Voilà, je voulais revenir sur ça. Vous en avez parlé tout à l'heure. À Amiens,
j'espère que
il y a
la chute est bonne
jours...
parce que l'intro, elle est commasse quand même.
Ouais, je sais.
Ne descends pas tes petits camarades, s'il te plaît.
Excuse-moi, mais quand tu as parlé, je t'ai laissé parler.
Voilà, bon, très bien précis. Affirme-toi. Et puis attention, ouais, j'ai pas encore mis toutes les notes pour la fin du
soir. On est déjà au débat du deuxième tour quand même.
Oui, oui.
Laissez précis parler, s'il vous plaît.
Alors, on y va. Donc, il y a deux jours, Marine se trouvait au parking Whirlpool. Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui.
D'accord. Alors, c'était lors d'une grève des salariés de l'usine Whirlpool. Les salariés font grève contre la fermeture de l'usine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Marine a débarqué. Alors, c'était pas du tout programmé. Elle a débarqué pourquoi ? Parce que le petit Macron était en pleine réunion avec les syndicalistes de l'usine en question.
Attention, on ne fait pas d'élite sale gueule ici, hein. Tu as dit petit Macron.
Ah, petit. Bon, alors le grand Macron, ça va ?
Non, délit de moyen aussi, là. Tu...
Alors, Manu.
Voilà, très bien, très bien. Okay.
Manu. Et donc, elle a eu le temps, elle était présente pour 15-20 minutes, et elle a eu le temps de faire un petit discours, de faire des petites embrassades, et même de faire ma spécialité, des selfies. Et ensuite, elle est rentrée dans sa limousine, elle est repartie. Il y a une phrase qui m'a fait un peu rire, c'est ce qu'elle a dit. « Je suis ici, à ma place, exactement là où je dois être, au milieu des salariés de Whirlpool, au milieu des salariés qui résistent à cette mondialisation sauvage. Je ne suis pas en train de manger des petits fours avec quelques représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes. » Voilà. Voilà, c'est ça le résultat lorsque Marine Le Pen joue l'émotion et la proximité. Après, ensuite, Macron surenchère. Il était en pleine réunion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, je me suis perdue. Quand il apprend la présence de Marine Le Pen sur le parking, qu'est-ce qu'il fait, le Manu. Que fait-il ? Eh ben, il essaye de retourner aussi sur le parking. Et là, il se fait huer. Et j'ai eu tellement mal pour lui. J'ai regardé des discours, comme on en parlait tout à l'heure. J'ai regardé des meetings où il était... sous l'euphorie où il criait.
Sous la coque.
Oui, voilà, shooté, sous la coque, voilà, il était shooté. Le voir comme ça m'a fait un peu mal. Après, je me dis à un moment donné, la politique actuelle, c'est plus de la télé-réalité qu'autre chose. On joue beaucoup sur la communication, beaucoup sur l'image, et on oublie même les programmes. Jusqu'à présent, les gens votent pour la personne et non pour le programme, et je trouve ça un peu décevant. Voilà, c'était la chronique de Précision Zolo.
La surgrave, hein, ça fait sa pub et tout.
Si c'est de la télé-réalité, j'espère bientôt voir Emmanuel Macron dans le bain de James Star.
Oui, bientôt. Ouais.
Alors finalement, moi je trouve c'est bien qu'ils défendent Whirlpool, parce que Whirlpool, ils font les machines à laver.
Oui.
Donc machines à laver, windwatching, etc. etc.
Oh oui.
On a encore deux minutes ?
Ben oui, il reste même 4 minutes.
Ah, ben super. Bon, je vais faire un petit coup de pub. Je vais faire mon mea culpa quand même, parce que c'est un livre que j'ai reçu en service presse. Donc, je vais le déclarer au service du fisc. J'ai économisé 19 euros. Hein. Ce n'est pas un costard à 3500 boules, mais c'est un bouquin à 19 euros. Je l'ai reçu en service presse. Ça m'arrive très rarement de faire une demande, mais là, je l'avais faite, parce que le titre, est, j'avais entendu sur France Culture parler l'auteur, Jean Pruvot, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Nos ancêtres, les Arabes ». Alors j'ai trouvé ça dans l'actualité en ce moment assez bien. Et ça remet les choses en perspective parce qu'on apprend plein de choses. Mm-hmm. Et notamment que l'arabe serait la troisième langue où la langue française a pioché des mots. Donc derrière l'anglais et l'italien. Mm-hmm. Donc, ce qui est assez intéressant. Et bon, il y a plein de mots. Alors si jamais vous le lisez, de toute façon quand je l'aurai lu, je le donnerai à la bibliothèque. Donc de la tasse de café à l'orangea, de la jupe satin à l'algèbre, enfin il y a plein de termes. Et moi, chose qui m'ont un peu marqué, c'est, en plus dans l'actualité qui est la nôtre, c'est que la mousseline, vous savez d'où ça viendrait ? Pas la purée, hein, le tissu.
Bah, ça vient de là-bas, non ? Les pays,
Ça viendrait de Mossoul, la ville de Mossoul, okay. Qui était spécialisée dans la mousseline. Et le gaz, la bande, c'est triste, mais ça viendrait de Gaza.
D'accord.
Voilà, donc j'ai trouvé ça.
Donc, c'était la minute culturelle.
Oui, non, mais c'est surtout que dans le contexte actuel, je pense que c'est bien de savoir d'où on vient. Quand on parle de nos ancêtres, les Gaulois, à l'époque où les Gaulois se tapaient dessus, c'était des barbares, et que les pays arabes étaient déjà en avance de quelques siècles sur nous. Bon, après, l'histoire, c'est un éternel recommencement, une marche arrière, voilà. Donc j'ai bouffé 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Une bonne nouvelle peut-être pour terminer ? Non ?
Éventuellement, je pouvais parler du futur en matière de technologie.
Ah bah ouais.
Actuellement, dans la cour d'appel de Rennes, en Ille-et-Vilaine et à Douai dans le Nord, ils sont en train de tester un logiciel pouvant prévoir le résultat des litiges en droit. Alors c'est pas encore testé en droit pénal, en droit privé, parce que ça pourrait induire trop d'erreurs, trop de bêtises. Néanmoins, le principe serait que la machine se connecte au réseau, vu que ça fait maintenant un an que tous les procès-verbaux sont publiés sur Internet. La machine pourrait s'y connecter, vérifier toute la jurisprudence de n'importe quel cas, et donc donner les probabilités de jugement pour tel ou tel cas que n'importe qui pourrait consulter avant de passer à la cour d'appel. Alors, sur le principe, ça a l'air sympa, effectivement, parce que ça permettrait d'éviter ce que certains appellent la justice à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on serait tous au même niveau devant le logiciel. Par contre, le problème, c'est que plus le temps passerait, d'après Xavier Roncin, président de la cour d'appel à Rennes, plus le temps passerait et plus ce logiciel se multiplierait pour se retrouver partout, à tel point, alors là c'est pas lui qui dit, mais pour être exact, un commentaire sur le Parisien, on pourrait se retrouver un jour à vouloir prendre une photo au photomaton, et la police n'attendrait dehors parce que finalement on a un excès de vitesse datant d'il y a 2 ans qu'on n'a pas payé.
Yes. C'était Big Brother. Et tu trouves ça sympathique?
Nous sommes surveillés.
Ouais. Eh bien, je pense que on va s'arrêter là. Donc, rendez-vous avec les invités qui sont...
Eh bien, oui. Ouais. Juste après, deux petites pauses musicales.
Deux petites pauses musicales.
Je vais repasser... Enfin, je la passe beaucoup, mais je vais passer Irina Popovska avec Moustavec. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez peut-être aimer. Peut-être. On vous retrouve tout à l'heure, du coup. Et puis, les grands canards...
Ben,
adios.
La prochaine fois.
Ben non, moi je reste là, moi.
Ben toi tu restes.
Ben, bien sûr. Moi je me tire.
Il reste un canard. Il y a Amélie qui toque déjà, donc je pense qu'elle est pressée qu'on avance. Allez, ben
allez,
bisous
tous.
Tout le monde.
Ciao, ciao.
Mouche t'avec, couche t'avec. Trissi bala perestroïcana, mouche t'avec. Mouche t'avec, couche t'avec. Tre si bala per estricana mosta vecca. Mosta vecca. Dikuska, talishnitsa. Push that.